Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi,
d'accord.
Moi, c'est André de Mbujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de nous accepter chez vous, mesdames et messieurs. Une fois de plus, merci de votre fidélité. À parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen sur Radio Okapi dans ce premier numéro de la semaine. Dans son allocution de ce dimanche 6 décembre à la Nation, consécutive aux consultations nationales, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décidé de nommer dans les prochaines heures un informateur pour dégager une nouvelle majorité parlementaire. Certains analystes estiment que cette décision met fin à la coalition et ouvre la voie à la formation d'un nouveau gouvernement qui devra répondre aux attentes de la population. Que vous inspire ce discours et cette décision? À l'adresse pa@radiokapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081 890 63 30 ou encore au 081 890 49 69 pour votre intervention en direct. Ça fait un mois, nous avons atteint la barre de 100 000 personnes avoir été touchées par nos différents sujets que nous vous proposons pour les débats dans Parole aux auditeurs. Merci de l'intérêt que vous accordez à nos différents sujets. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Jean-Claude Tiala est à la mise en onde. Marcel Ngombo Mbala Keba à la réalisation de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Anji. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Avec un réel plaisir, nous recevons dans ces studios professeur Tshibangu Kalala pour la seconde fois après avoir d'abord décrypté les discours du chef de l'État en début du mois de novembre. Et nous reviendrons avec vous, professeur. Merci de nous avoir honoré de votre présence.
C'est à moi de vous remercier.
Pour décrypter cette fois-là l'allocution du chef de l'État après les consultations. Est-ce que cette allocution a été à la hauteur des attentes de la population?
Jérôme Kembo, d'abord je vous remercie, vous-même et à travers vous, toute la direction de Radio Okapi pour les différentes occasions que vous me donnez de m'exprimer sur des questions d'actualité politique dans notre pays. Ça fait trois fois, ça c'est la troisième fois que nous traitons de ce sujet. Je suis comblé. Le discours prononcé hier par le président de la République mais satisfait totalement. Le président est resté cohérent et logique avec lui-même. Rappelez-vous, nous avons dit avec vous devant ce micro que le président ne doit pas se limiter à taper du poing sur la table, mais il doit tout simplement renverser la table. Eh bien, le président a renversé la table hier. Il a mis fin à la coalition qui faisait des problèmes. C'était une demande populaire. Et ça, c'est très bien. Deuxième chose, le président ne s'est pas limité à cela. Le président a tracé la voie à suivre. Il ne suffit pas de sortir de la coalition, mais on va vers où? Et là, le président a annoncé deux plans. Le plan A et le plan B. Le plan A, il s'est dit, bon, on va vérifier si au sein de l'Assemblée nationale, actuellement,
identifier la majorité.
Est-ce qu'il y a encore la majorité parlementaire FCC, est-ce qu'elle est toujours majorité? Parce qu'il semble que cette majorité s'est effritée. C'est le terme qu'il a utilisé.
Tout à fait.
Est-ce que la majorité est toujours là? Bon. Et pour cela, il a dit, je vais désigner un informateur pour me faire le rapport sur la situation, la cartographie politique de l'Assemblée nationale. Mais si cet informateur échoue, disons, pas échoue, l'informateur n'est pas là pour forcer les gens, c'est dans une majorité, c'est pour constater. Mais si l'informateur constate que la majorité FCC est toujours là, il n'y a pas de changement, alors le président dit en ce moment-là, je vais organiser des élections législatives anticipées. Il a parlé de la dissolution de l'Assemblée nationale, mais en fait, il ne suffit pas de dissoudre, on ne s'arrête pas à la dissolution. Il faut organiser des élections législatives anticipées. Et donc, le président a deux plans. Le plan A, voir s'il y a eu changement à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Plan A, s'il y a changement de la majorité, ok, on avance. Mais s'il n'y a pas changement de majorité, on bascule dans le
plan
B.
Est-ce qu'en réalité, il s'agit des simples constants ou ça sera les débauchages?
Non.
C'est un mécanisme de débauchage.
Non.
Qui est mise en place, une batterie qui est mise en place pour débaucher.
Mon analyse personnelle est la suivante. L'informateur...
Parce qu'il faudrait quand même qu'on explique à la maman qui nous suit, oui, qui ne comprend pas le français ou qui n'a pas la capacité d'exégèse, de comprendre comme nous tous. Parce que nous avons vu, hier, c'était la fête, tout le monde, il y avait des sifflets partout, pour dire, mais voilà, on a mis fin à la coalition. Mais la grande question aujourd'hui, le travail que va faire l'informateur, arrivera-t-il à déboucher ou à constater seulement?
On va faire un peu de pédagogie, selon notre demande. En fait, le président de la République a déjà, entre guillemets, nommé... Enfin, il va y avoir deux informateurs. Il y a eu déjà un premier informateur qui a déjà fait le travail. Et il y aura un deuxième. Le premier informateur, c'est le président de la République lui-même.
Lors des consultations.
Voilà. Donc il s'est informé sur la vie de la nation. Il a consulté les forces vives de la nation. Il a parlé avec les élus, les députés nationaux, provinciaux, les sénateurs. Il s'est informé largement, la société civile. Donc il a été déjà lui-même son propre informateur. Voilà. Il a entendu beaucoup de choses. Mais il se dit, bon, mais je ne veux pas me limiter seulement à moi-même. Maintenant, il faut que j'entre dans la Constitution, que je désigne un informateur qui puisse m'indiquer clairement savoir est-ce qu'il y a eu effritement de la majorité au sein de l'Assemblée nationale, oui ou non. La mission, c'est ça votre question, la mission de l'informateur n'est pas d'amener des cartons d'argent remplis de dollars pour commencer à acheter les députés. Ce n'est pas le travail de l'informateur. N'oubliez pas que le président a condamné la corruption, même dans son discours hier, il a parlé encore de la lutte contre la corruption. Donc il n'est pas question d'aller distribuer de l'argent aux députés qui sont à l'Assemblée nationale.
Mais quel est le travail que doit faire l'informateur? Il va rester dans son bureau, les gens vont faire l'allégeance au chef de l'État, ou bien, bon, comment ça va se passer concrètement?
Ça va se passer comment? Bon, moi, j'ai déjà participé à ce travail d'information avec le vieux Mwando Simba, dont je salue la mémoire, après les élections de 2011. Il a été désigné informateur par le président Kabila. Il nous a reçus avec beaucoup d'autres. Et donc, sa question de savoir, de poser la question. Messieurs, madame, votre parti politique, avec vos élus, vous êtes dans quelle composante? Est-ce que vous êtes dans la majorité ou vous êtes dans l'opposition?
C'est juste donc, protocolaire.
Justement, mais il n'est pas là à influencer les gens. Il n'est pas là à dire, oui, mais vous devez quitter là où vous êtes, venez dans tel camp. Ce n'est pas son travail.
Mais est-ce qu'on peut croire, est-ce qu'on peut croire aux gens sur parole? Parce que nous avons vu, même pour les dossiers et bureau de l'Assemblée nationale, nous avons vu déjà des députés monter au créneau pour aller en justice, dire accuser d'autres députés pour usage des faux.
On l'avait dit avec vous devant ce micro. L'informateur n'est pas un recruteur, un chasseur de têtes, un chasseur de députés au service du président de la République. Ce n'est pas son travail. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion. L'informateur, je répète, n'a pas des cartons des dollars, n'est pas là pour influencer les députés. Non, c'est pas possible. C'est pas son travail. D'ailleurs, s'il osait faire ce genre de choses, il devrait être dénoncé et chassé. Donc, c'est pas son travail. Il est là pour poser des questions aux différentes forces politiques qui sont les partis politiques. Bon, il ne va pas commencer à recevoir les députés individuellement. Les députés sont dans des regroupements ou sont dans des partis politiques. Et donc, il va appeler les chefs des partis politiques, les chefs de regroupements politiques qui sont représentés à l'Assemblée nationale, pour parler avec eux. Bon, écoutez, il y a un problème, je vais vérifier pour savoir si vous êtes toujours dans la majorité FCC ou si vous envisagez de quitter, d'aller dans une majorité, etc. C'est un travail, vraiment une simple formalité. Il n'est pas à pousser les gens à les influencer pour aller dans tel ou tel sens. C'est pas ça le travail de l'informateur. Il est là pour identifier la majorité et faire le rapport au président de la République.
Et il fait ce travail pendant combien de temps?
Alors, selon l'article 78 de la Constitution, qui prévoit le travail de l'informateur, eh bien, il a un délai de 30 jours. Mais qu'on peut renouveler une seule fois. Ça fait 2 mois. Bon. C'est ça, le délai prévu par la Constitution. Mais l'informateur peut, au bout d'une semaine, terminer son travail. Il n'est pas obligé de vider complètement les 30 jours. Si au bout d'une semaine, de 2 semaines, 10 jours, il a contacté tout le monde, il a constaté qu'il n'y a pas une nouvelle majorité, c'est toujours l'ancienne majorité. pour parler de notre gars. L'ancienne majorité FCC qui est toujours là, mais il fait directement le rapport au président de la République. Il n'est pas là à faire perdre du temps au président de la République en traînant les pieds.
C'est une première pour la RDC de se retrouver dans ces cas de figure où il y a un informateur d'une part et de l'autre part, il y a un gouvernement qui est en place qui n'est pas encore démissionnaire.
Vous avez raison. C'est une grande première. C'est vrai que depuis hier, le président de la République a condamné dans les termes les plus durs le gouvernement Ilunga Ilunkamba. Il a dit ceci. Ce gouvernement, depuis des ans que nous sommes là, ce gouvernement n'a pas été capable d'exécuter le programme du gouvernement, le programme du président de la République. Mmh. Premier constat. Deuxième constat, le président dit ce gouvernement a été incapable de répondre aux aspirations, aux besoins légitimes du peuple congolais. Mmh. Donc c'est un gouvernement en faillite. La condamnation.
Dans d'autres termes, le président vient de désavouer son gouvernement.
Mais il vient, le gouvernement Ilunga, le président vient de procéder, si vous voulez, à un enterrement de première classe du gouvernement Ilunga.
Appelons-le une démission.
Non, il n'a pas parlé de démission. Mais en réalité.
Parce que le fait de l'enterrer, c'est désavouer, c'est ne plus avoir confiance à ce gouvernement, c'est une façon de le pousser à démissionner.
Mais c'est un gouvernement inutile, le président le dit. Il est inutile, il ne fait pas le travail qu'il faut faire. Il n'est pas capable d'appliquer le programme politique du président de la République, il n'est pas capable de répondre aux besoins de la population, c'est un club totalement inutile. Je suis dans les propos du président de la République. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un enterrement de première classe de ce gouvernement. Et, d'après moi, ce gouvernement n'est là, pour le moment, vraiment, en train d'expédier les affaires courantes. Parce qu'on ne voit pas, après avoir dit ce qu'il a dit, que le président de la République continue à réunir encore ce gouvernement. Nous avons parlé lors de la dernière émission de la paralysie du Conseil des ministres.
Tout à fait. Pas.
Mais là, depuis hier, on ne voit pas comment le président peut encore se réunir avec ce gouvernement. Il dit que c'est un gouvernement totalement inutile. Et donc, il est à la recherche, au moment où je vous parle, le président est à la recherche de nouveaux gouvernements. Et pour avoir ce nouveau gouvernement qui doit travailler suivant sa propre vision, il a dit son propre terme, et il faut qu'il y ait une nouvelle majorité parlementaire.
Voilà.
Il agit en deux temps. Je vois que le président de la République a fait une bonne distinction entre la tactique et la stratégie. Donc, sa stratégie demeure. Refonder l'action du gouvernement dans le pays. Arriver à présenter un bon bilan au peuple congolais en 2023. Sa stratégie reste. Mais la tactique, il varie la tactique. Il avance, il accélère quand il faut accélérer. Il temporise quand il faut temporiser. Il se donne du temps. Il écoute tout le monde. Jusqu'à présent, selon moi, le président a fait un parcours sans faute. Jusqu'à présent.
Voilà. Alors, est-ce que ce n'est pas l'usure du temps? Joue sur le temps, parce que deux mois qu'il va prendre, si nous allons, au cas où un mois n'arrivait pas à donner le résultat, l'informateur ira jusqu'à deux mois. C'est pas. Le président est en train de travailler sur le temps, que le temps qu'il doit jouer à sa faveur?
À mon avis, la RDC est un pays complexe. C'est pas facile de diriger la.
Au lieu de prendre une fois pour toute la décision, il n'y a plus de coalition, il n'y a plus de majorité, et nous allons directement aux élections anticipées.
La RDC, c'est un pays complexe. On ne va pas construire la RDC en un jour, en un mois, ou en deux mois. Et donc, pour construire, consolider l'état de droit, la démocratie, mettre une nouvelle gouvernance politique, économique, sociale, culturelle dans le pays, il faut préparer ça. Je pense que le président fait bien les choses. Il faut non seulement écouter l'intérieur, le pays, mais il faut écouter aussi l'extérieur, voir les enjeux internationaux. Il doit combiner tout cela pour prendre des bonnes décisions. Et donc, il fait bien les choses, comme je l'ai dit. Le président a fait un parcours sans faute jusqu'à présent. Et il avance bien. Il faut le temps. Pour construire, il faut le temps. Il faut
pas se presser. Voilà. On va revenir à vous, professeur. Le temps est passé de l'autre côté du standard. Accueillir les auditeurs qui nous ont émis les vœux. Donc, ils ont émis les vœux de pouvoir participer dans cet échange citoyen. Amos, Christian et Franck, 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention en direct.
Afin de permettre aux élèves du cycle primaire de répéter les leçons apprises en classe, Okapi École vous propose désormais des cours adaptés au programme national de l'enseignement. Suivez également la nouvelle rubrique « Le prof répond » axée sur la psychologie de l'enfant. Au Capi École, un partenariat entre le ministère de l'EPST, l'UNICEF et Radio Capi pour l'épanouissement de nos enfants. Suivez au Capi École du lundi au vendredi à 9h05 et 14h05, les samedis à 11h05 et 14h05 et les dimanches à 10h05, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs.
Merci encore de votre fidélité à Radio Capi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs qui reçoit pour vous professeur Tshibangu Kalala, qui est juriste et qui décrypte ensemble avec nous l'allocution de ce dimanche 6 décembre à la Nation, consécutive aux consultations nationales, où le chef de l'État a pu prendre des décisions pour la bonne marche du pays, notamment en promettant donc de désigner un informateur pour dégager une nouvelle majorité parlementaire. Amos, vous êtes à Bukavu, bonjour et bienvenue. La parole aux auditeurs.
Bonjour JR, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Comment avez-vous jugé les discours du chef de l'État? Est-ce que cela a été à la hauteur des attentes de la population?
Moi, je ne pense pas, j'ai toujours été prudent dans mes analyses JR, et c'est encore pour moi une occasion de le dire devant le peuple congolais. Je salue le professeur Tshibangu à la présence au studio. Mais je me dis, le malheur du peuple congolais, c'est d'avoir des professeurs, au lieu d'aider le peuple, ils analysent selon leurs intérêts d'artisans, et c'est ça le danger pour nous. Au lieu d'éclairer l'opinion que nous sommes, ils analysent souvent selon leurs intérêts. Pourquoi je le dis? Je me souviens, à moins que je me trompe, que le professeur était au FCC. À moins que je me trompe, mais je m'imagine qu'il était là dernièrement avant de démissionner, comme personnalité politique. Par rapport au discours du chef de l'État, il a préconisé des plans, c'est-à-dire nommer un informateur. Oui, mais je tiens à dire que...
Oui, mais Amos, il faudrait... Avant que vous poursuivez, Amos...
Et ça, mais, nous avons dit que le président est tombé dans le pied du FCC quand il n'a pas nommé l'informateur au moment où c'est dit la Constitution. C'était ça d'abord la première erreur du président de la République, de ne pas nommer l'informateur lors de la formation du gouvernement actuel. Parce que je me dis, si du moins l'informateur qui sera nommé ne parvient pas à réunir la majorité comme on l'attend, on devient quoi? On passe au deuxième plan, comme le professeur venait de le dire, le discours de l'Assemblée et organiser
les élections anticipées.
D'une manière anticipée, les élections législatives. Mais moi, je pense qu'en organisant ces élections législatives, je préconise qu'on organise toutes les élections générales.
Jusqu'au sommet.
En commençant par la présidence. Parce que, comme je l'ai toujours dit, le problème que nous avons aujourd'hui au pays, même le président lui-même fait partie. Je le dirai, je ne cesserai jamais de le dire. Le président lui-même fait partie du problème que nous avons par rapport aux accords qu'il a eu à signer, que ce soit à Nairobi, que ce soit avec le FCC, il fait partie du problème. Et vouloir ne pas le voir ainsi, ce n'est pas aimer la République. C'est pourquoi je continue à dire qu'il est grand temps qu'on organise un dialogue pour réunir les concernés.
Oui, Amos, aujourd'hui, les dialogues appartiennent au passé. Les dialogues appartiennent au passé parce qu'en scrutant, bien entendu, ces discours, on se rend compte qu'il n'y a que deux voies de sortie, notamment identifier la majorité, si cela n'est pas possible, organiser des élections anticipées. Et vous avez proposé des élections générales. Je crois que c'est cela l'idéal.
Oui, je propose des élections générales parce que parler des élections anticipées au niveau législatif seulement, ça ne résoudra jamais.
Ça ne va pas résoudre le problème. Merci beaucoup, Amos.
Jusque-là, le président fait partie du problème.
Il fait partie du problème. Merci beaucoup, Amos.
Là où nous sommes, le président est en train de perdre l'État.
Merci beaucoup, Amos. On va prendre Christian. Christian, vous avez suivi Amos qui, au fait, trouve que le discours n'a pas été à la hauteur parce qu'on fait dit sur place. Il faut encore revenir au dialogue qui est du reste, doit appartenir déjà au passé. Christian, quelle est votre réaction? Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, JR. Merci de la confiance accordée. Je vais répondre à quelques points d'Amos, mais premièrement, je vais vous dire que ce discours, pour moi, vraiment vient d'inaugurer une ère nouvelle, avec qui aura principalement des conséquences majeures. Première conséquence, la possibilité pour ces nouveaux régimes de mettre en place sa politique et sa vision. Deuxième conséquence, les déclenchements des poursuites contre les faucons de l'ancien régime qui pourraient également, quant à elles, produire des effets. Premier effet, la création du groupe rebelle Made in Kingakati ou du FCC à dessein justement Jérôme de plomber les climats politiques et justement les climats des affaires. Autrement dit, ils vont chercher à faire les compteurs à zéro. Deuxième effet, les départs en exil de certains groupes poissons du FCC, ceux qui vont résister, eh ben, ils vont accepter avec moult peine la décision de prise par Félix Tshisekedi, mais cette acceptation va justement sera assortie d'un éreintement et du coup, je veux dire, les basculements du FCC ou du PPRD dans l'opposition. Il faut dire le PPRD parce que beaucoup qui sont dans les FCC vont rejoindre Tshisekedi dans ce qu'il appelle l'Union sacrée. Mais au-delà de tout, Jean Guémo, ce que nous devons retenir, c'est que il a peur que sur le plan, si on s'en tient au discours du chef de l'État, le chef de l'État a détrôné Joseph Kabila politiquement, parce que déjà, il faut qu'on se le dise, la démarche qui vise à faire tomber le bureau Mabunda va aboutir et il y aura une nouvelle majorité. Mais seulement le chef de l'État n'a pas réussi à détourner Joseph Kabila étant acteur économique. Car Jean Lungembo, il est, en tout cas, sans nul doute que Joseph Kabila est actionnaire, en tout cas, il semblerait, en tout cas, selon certaines informations, sauf indication contraire, Joseph Kabila serait actionnaire dans plus d'une société commerciale. Et donc, il est un acteur majeur. Et lesquelles sociétés détiennent aujourd'hui, fait en fait Joseph Kabila d'un détenteur de l'économie congolaise. Il est actionnaire dans Pain Victoire, actionnaire dans Egal, actionnaire dans Daipen. Et donc, du coup, cela fait de Joseph Kabila un acteur majeur dont nous ne pouvons pas s'en passer. Et au-delà de ça, il est également actionnaire ou acteur majeur dans les domaines pharmaceutiques, bancaires et consommes. Et voilà pourquoi, je demanderais au chef de l'État, vraiment, il faut beaucoup plus être méthodique et réaliste vis-à-vis de cet homme.
Mais puisque qu'est-ce que vous redoutez en tant qu'un acteur économique important, le fait que s'il n'est pas d'accord avec ses discours, il risque de tout paralyser?
Il risque de tout paralyser. Il suffit de donner un mot d'ordre à ses actionnaires de ne pas vendre, ne serait-ce qu'un jour, Kinshasa ou la RDC va plaire économiquement.
Merci beaucoup.
On est pas sans savoir que quand vous descendez sur le marché, il y a un monde fou qui fait des achats. Mais j'avais fini par la Jean Nguébo sur un point que les profs a dit, que la RDC étant pays aux multiples dimensions. Il a évoqué un aspect sur le plan externe. Sur le plan externe, ses discours ou encore l'enracinement du pouvoir des Félix Tshisekedi va également inaugurer une nouvelle ère sur la sous-région. Rappelez-vous, le printemps arabe avait pour mission de balayer tous ces anciens faucons. Et aujourd'hui, avec Tshisekedi et Lorenzo, les faucons de la sous-région ont peur que demain...
Donc c'est un message aussi adressé à leur endroit. Merci beaucoup, Christian, d'avoir appelé et d'avoir abordé cette question sur plusieurs points, notamment sur le plan interne et externe, avec la question de la sous-région. Et d'ailleurs, c'était le sujet que nous avons pu aborder tout récemment, lorsque nous avons parlé du meeting aérien qui a été organisé entre les deux armées congolaises et angolaises. Merci beaucoup, Christian. Franck, vous êtes à Vienne. Bonjour et bonne arrivée sur les ondes des radios Capi, Franck.
Bonjour, mon ami Gér. Bonjour aussi au prof Chibamoka Lalaki avec vos studios. Bonjour également à tous les amis avec qui nous échangeons.
Alors, sur notre page Facebook, vous avez élaboré plusieurs constats que vous avez faits par rapport à ces discours. Lesquels?
Oui, je crois que nous avons suivi ces discours avec attention de l'intérieur comme de l'extérieur du pays. Je suis personnellement content de constater quelques aspects. Le premier, c'est le courage que le chef d'État se donne pour reconnaître en public que rien ne marche avec ce gouvernement. Le deuxième aspect, c'est le courage d'annoncer ouvertement les intentions qu'il a, comment il pense le matérialiser, requalifier la majorité ou passer par dissoudre l'Assemblée. Le troisième aspect, là j'arrive à mes analyses personnelles, ce sont des questionnements. Mmh. Ce sont des questionnements d'optique juridique et politique. Mmh. si jamais la requalification de la majorité ne se concrétisait pas aussi facilement, qu'est-ce qui arriverait? Et pour l'option de dissoudre l'Assemblée, de quelle marge juridique dispose-t-il au niveau de la Constitution? Parce que le prof qui est au studio pourra nous aider. Le quatrième aspect pour moi, ce sont des questions en forme de crainte. Mon ami Gilles, nous savons tous en chimie que quand on prend de l'eau propre, on la mélange avec de l'eau sale. Je ne sais pas si on donne cette eau-là à la population, si ça peut vraiment donner
impropre à la consommation.
Ça posera encore problème. Donc moi, au niveau de cette question, au niveau des craintes, je me demande personnellement avec quel politicien, avec quelle qualité d'homme, avec le même qui ont fait des navettes de l'opposition à la majorité, FCC est maintenant de la majorité FCC à l'Union Sacrée, avec le même politicien qui a le même moral, qui nous a fait voir de quoi il est capable. Est-ce qu'on peut vraiment se laisser croire? Et un dernier constat, je m'adresse à mon aîné, le prof Tibankié, avec vos studios. J'ai toujours souhaité les rencontrer sur place parce que on se connaît à distance, on partage parfois les mêmes vues, les mêmes analyses. Je salue personnellement la pertinence de ses analyses politiques. Je salue son éloquence, mais on a débattu avec lui, on a milité, mais à un certain moment, il a changé de camp, il s'est retrouvé de l'autre côté, et comme réponse...
Oui, mais est-ce que Franck, vous savez bien comme moi que...
C'est lui qui avait changé, s'il vous plaît, Gilles.
Oui, la politique, elle est dynamique.
La politique qui a changé de camp. Je lui pose juste une question, est-ce que cette fois-ci, pourra-t-il vraiment rester constant? Oui, il peut encore changer de face.
Merci beaucoup, Franck, parce que là, il s'agit d'une question directe avant de prendre Simon. Professeur,
vous avez changé de camp. Finalement, vous devenez trop volatile et personne ne croit plus à vos analyses. En tant que professeur, Amos l'a dit au début, bon, ça commence pas à nous mettre tous en porte-à-faux, en guerre, quand on vous invite et parfois on n'est pas en très bonne position.
Gilles Lungembo. Vous voulez que je réponde à cette question?
Non, d'abord, votre position. Est-ce qu'on peut croire? Parce que le chef de l'État a dit dans son discours des personnes qui vont être autour du respect des valeurs. Pas autour des... Pas des djihadistes, pas des mobilisateurs.
D'abord, je tiens à remercier du fond de mon cœur mon ami Franck. Je crois que Franck de Vienne,
il est toujours à Vienne. Oui, il est toujours à Vienne.
Et moi-même, je souhaite vivement, Franck, de vous rencontrer. Le jour où vous serez ici à Kinshasa, vous pouvez demander mon numéro de téléphone à notre ami commun, Gilles Lungembo. Il va vous donner mon numéro. Je serai vraiment heureux de faire votre connaissance, de parler avec vous. Bien. Je vais vous parler de moi après, parce que ma personne n'est pas importante ici. C'est la RDC qui est importante. Vous avez posé la question... Enfin, vous avez posé la question de savoir, mais qu'arriverait-il si la majorité parlementaire... reste FCC, qu'il n'y a pas de changement. Le président a déjà répondu à cette question dans son discours. Il a dit, si il n'y a pas de changement de majorité à l'Assemblée nationale, il va appliquer le plan B, et donc dissolution. Et dissolution
signifie... Il a utilisé les termes, je reviendrai auprès de vous, la population, pour que vous me donniez cette majorité.
Oui, ça, je vais commenter ça. Il a dit... Il y aura la dissolution parce que les conditions de la dissolution sont réunies. Et il a dit clairement que bon.
Il a donné l'exemple de la prestation de serment.
Nous avons fait cela. Et donc, il va procéder à la dissolution parce que d'après lui, les conditions sont réunies. Dissolution signifie élection législative anticipée. Voilà. Donc, le président a répondu à cette question. Vous avez posé la question de savoir, mais quelles sont les marges de manœuvre du président s'il y a dissolution? Je vais donner mon avis personnel sur cette question de dissolution. La dissolution est encadrée par la Constitution, à l'article 148. Si le président veut prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est la procédure prévue, il va consulter le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, leur demander leur avis. Mais l'avis n'est pas contraignant. Ils peuvent dire oui ou non, ça importe peu. Mais il doit les consulter. Et puis après, quand le président prononce la dissolution, eh bien, il faut que la CENI organise les élections dans un délai de 60 jours à partir du jour du prononcé de la dissolution.
Mais nous avons un problème sérieux avec la CENI.
Oui.
Les gens ne s'entendent pas sur les animateurs.
Donc, il y a un problème à ce niveau-là de la CENI. Donc, d'abord, le délai des 60 jours. Mm-hmm. Le pays ici, mon cher ami Franck, la RDC, c'est toute l'Europe occidentale. Mm-hmm. Imaginez-vous s'il faut organiser les élections en Europe occidentale dans un délai de 60 jours, ce n'est pas possible. Un pays sans infrastructure, sans communication, ce délai est très court. Du reste, en 2006, on avait expérimenté ce délai de... C'était même 15 jours, d'ailleurs. Mm-hmm. On a dû demander à la Cour suprême à l'époque pour pouvoir prolonger ce délai. Donc, c'est un délai très court. Là, le président sera obligé de solliciter la Cour constitutionnelle pour obtenir la prolongation. Ben, c'est encore un débat. Et puis, si le président arrive à la dissolution, eh bien, il faut que son ordonnance de dissolution soit contresignée par le Premier ministre. Et si le Premier ministre ne contresigne pas cette ordonnance...
Il y aura crise.
Il y aura encore des problèmes. Mm-hmm. Parce qu'il n'y a que 4 ordonnances présidentielles qui ne nécessitent pas le contreseing du Premier ministre. C'est-à-dire l'ordonnance nommant le Premier ministre lui-même, mm-hmm. L'ordonnance du président quand il déclare la guerre, l'ordonnance du Premier ministre... Qu'est-ce que je dis ? Quand l'ordonnance présidentielle, quand le président déclare la guerre, mmh. là, le Premier ministre n'a pas contresigné. L'ordonnance nommant le Premier ministre lui-même, l'ordonnance où le président de la République investit les gouverneurs de province, là, il n'y a pas de contreseing, et l'ordonnance quand le président confère des grades dans les ordres nationaux. Mmh. Les grades, là, ce sont les quatre sont prévus. Mmh. Et toutes les autres ordonnances doivent être contresignées par le Premier ministre. Je pense qu'y compris celle sur...
Et le fait que Ilunga n'est pas encore démissionnaire.
Oui, oui. Et donc, il y aura un problème. Il y aura quelques problèmes d'ordre procédural qu'il faudra que le président, s'il opte pour cette solution-là, puisse pouvoir résoudre. Mais un autre problème, c'est qu'il faut que la CENI organise les élections. Mm-hmm. Mais c'est quelle CENI ? Le bureau actuel qui est dans la crise.
Et déjà fait mandat.
Où il faut trouver une autre solution. Bon, en ce moment-là, Franck... moi, j'ai pu imaginer, en disant, bon, dans cette hypothèse-là, parce que la CENI fait des problèmes, eh bien, et pas la CENI comme institution, ce n'est pas CENI institution qui fait des problèmes. C'est une administration électorale. C'est une institution d'appui à la démocratie. Le peuple congolais n'est pas contre la CENI. Mm-hmm. Le problème, c'est le bureau, oui. La direction, oui. La tête de la CENI qui pose des problèmes, qui est dans la crise. Donc, alors, on peut... d'une manière spéciale, parce que nous sommes dans une crise, mesure exceptionnelle pour affronter une situation exceptionnelle. Mm-hmm. Eh bien, on peut imaginer qu'on puisse mettre en place un comité spécial qui va faire le travail du bureau.
Est-ce que ce comité sera crédible ? C'est là, c'est quand, parce qu'on sait tous les débats qui tournent autour des personnes.
Oui, oui.
Est-ce que ces personnalités-là auront la crédibilité ?
Alors, pour moi, j'imagine, hein, c'est une réflexion que je donne. C'est pour dire... Bon, quel est le problème ? Le problème, c'est la politisation du bureau de la CENI. Mmh. Et tout le monde réclame, y compris moi-même, sur là-bas et beaucoup d'autres, la dépolitisation du bureau de la CENI. Mmh. Et donc, on peut, par exemple, mettre en place un comité spécial composé exclusivement des membres de la société civile. Voyez-vous ? Parce que, comme la FIFA, dans le monde du football, on prend des personnalités indépendantes, la vraie société civile... Pas les membres de la société civile qui sont cachés dans des politiciens cachés dans les associations, mais ils se connaissent entre eux. Hein. Bon, ils vont se retrouver entre eux, désigner 6, 7, 8 ou 9 personnes qui vont constituer un comité spécial qui va faire fonction du bureau de la CENI parce que le pays est en train de brûler.
Tout à fait.
Mm-hmm. Nous sommes en pleine crise. Mm-hmm. Le président dit lui-même que la crise est persistante. Mm-hmm. Et c'est lui qui doit nous faire sortir le pays de cette crise. Il n'y a personne d'autre. C'est mm-hmm. lui. Va prendre des décisions. Il faut régler. Franck, il y a ces problèmes-là de la dissolution avec les marges de manœuvre. Il y a des problèmes d'ordre procédural qui mm-hmm. se posent. Mais le président pourra trouver une autre solution.
Avec quel politicien ? Les mêmes politiciens ?
Alors, vous dites avec quel politicien ?
Et c'est là où Franck, il vous a bien sûr, directement visé personnellement.
Franck, on ne va pas demander au Dieu Tout-Puissant, le bon Dieu, de créer des nouveaux Congolais de suite là, dans l'espace de quelques jours qui vont commencer à faire la politique. Voilà. On ne peut faire la politique dans ce pays qu'avec les Congolais qui sont là. Le président a indiqué de voir...
Des politiciens qui autrefois étaient au FCC, qui changent, qui va à l'Union Sacrée et demain ça sera...
Mais attention, Franck, la politique...
Elle est dynamique.
La politique n'est pas un monument. La politique, c'est un mouvement. La politique, c'est un mouvement. La politique est dynamique. Hier, nous avions la coalition CACH-FCC.
Aujourd'hui, en privé, professeur, vous nous avez dit qu'en politique, il n'y a pas d'irrationalité.
Oui, mais c'est ce que je veux dire. Donc, hier, ce pays a été gouverné pendant presque 2 ans par une coalition. Mais cette coalition a volé un éclat hier. Voyez-vous, la politique est dynamique. La politique, c'est un mouvement, ce n'est pas un monument. C'est le droit qui est un monument, qui est statique. La politique est dynamique, c'est un mouvement. Les faits politiques bougent. La société bouge.
Et bouge avec les politiciens.
Et bouge, mais bien sûr. Mais ceux qui vont entrer dans l'union sacrée que le président envisage de créer...
Ce ne sont pas des anges. Hein.
Mais ils ne tombent pas du ciel. Ce sont les mêmes Congolais qui étaient dans d'autres partis politiques qui vont constituer des majorités entre les choses pour défendre l'intérêt général, défendre le bien commun. Ce sont les mêmes.
Voilà. Alors, si vous le permettez, on va prendre les 3 autres auditeurs qui nous ont rejoints. Et ils sont déjà de l'autre côté du standard. Simon Tilolou, Jean-Baptiste, ainsi que l'honorable Paul Mouindo. Alors, on commence avec l'honorable Paul Mouindo, parce qu'il y a quand même des questions sur les lois de la République. Honorable Paul Mouindo, vous êtes avec nous?
Oui, je suis là.
Voilà, vous êtes l'élu de Nord Kivu. Alors, vous avez suivi l'actualité comme nous, les discours du chef de l'État. Est-ce que ce discours a été à la hauteur des attentes de la population? Et surtout avec l'incise, dans les prochains jours, il sera désigné un informateur qui va avoir comme, travail, identifier la majorité au sein du Parlement.
Oui, merci bien d'avoir agi, de m'avoir associé à ce débat. D'emblée, je voudrais vous donner un peu la température sur le plan national. Donc, ici, d'abord, à Kinshasa, vous l'avez remarqué, il y a eu des réjouissances de partout, dans toutes les communes. Quand vous quittez Kinshasa, vous allez dans la province Nord Kivu, c'était la même chose. Les gens ont passé des nuits en train de se réjouir. Vous allez même au Katanga, c'est la même chose. Et dans d'autres provinces, en tout cas, les échos que nous avons, c'est que le discours du chef de l'État a rencontré... et la volonté de la majorité, de la population, et donc ce qui est à saluer. Et il faut également dire que le discours du chef de l'État démontre un courage. Au-delà de tout ce qui s'était passé pendant les élections, comme ce que le cardinal avait dit à un moment, que du mal peut sortir quelque chose du bien. Et comme je le dis souvent, à l'époque, il y a quelqu'un... l'histoire de la Bible, l'histoire de Jacob, et puis en fait il y a donc il y a des faits qui démontrent que le président est entré à tout faire pour se battre afin de mettre fin à un système qui a mis par terre notre pays. Alors la question de l'informateur, comme vous venez de le dire, la question de l'informateur, c'est une question pertinente. Vous savez, l'article 78 dit ceci. Le président de la République nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Si une telle majorité n'existait pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. Alors, aujourd'hui, on est dans une situation qui est fondée sur un faux, sur un mauvais départ. Nous l'avions dit déjà dans les temps, lorsqu'on avait nommé le Premier ministre, on n'avait pas procédé à l'identification de la majorité parlementaire. On avait fait un constat documentaire. Comme je l'ai d'ailleurs lu ce matin, j'ai relu, quand vous m'avez appelé, j'ai relu les documents signés à l'époque par les FCTCH. C'était qu'on a constaté, sur base documentée, une majorité. Mais une majorité qui était l'ensemble de plusieurs partis politiques, de plusieurs regroupements politiques, et donc qui avait une tendance d'une coalition. Et elle-même, d'ailleurs, elle disait que c'est la coalition FCC CACH. Mais comment on peut parler d'une coalition alors qu'on n'a pas nommé un informateur? Parce que la question est claire. Si une telle majorité n'existait pas, le président de la République confie une mission d'information à une...
Donc vous, en tant que député national, vous affirmez qu'effectivement, il n'y a jamais une majorité. La majorité qui existe là, c'est une majorité documentée.
Effectivement, c'est une majorité documentée. Je prends les communiqués même du FCC, qui est clair par rapport à ça, FCC CACH, signé par Mulanya et les gens de l'IDPS. C'était qu'on a constaté une majorité documentée. Et puis, ce qui était quand même anormal, la Constitution parle d'une coalition lorsqu'on n'est pas parvenu à identifier une majorité et qu'à l'issue du travail d'un informateur, on peut aboutir à une coalition. Mais eux ont abouti à une coalition
sans
la présence d'un informateur. Donc je crois que il n'y a que des personnes insensées qui ne changent pas. Mmh. Je remercie le courage du chef de l'État.
Il est revenu sur ça.
Il y avait une erreur au départ.
Et qui tient à la corriger.
Il a respecté la Constitution et j'en appelle les autres à se conformer à cette esprit constituant.
Merci beaucoup, honorable Paul Mouindo, d'avoir accepté de nous apporter cette précision dans cette émission. À très bientôt, honorable. Hein. Alors, Simon Tilolovou, vous êtes un Matadi. Bienvenue dans cette émission, Simon.
Oui, merci beaucoup à vous. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs qui le suivent de par le monde et qui pensent que nous pouvons faire des analyses positives par rapport à la situation des autres pays qu'on met avec vous et les autres également.
Mmh.
En fait, je pense que nous, Congolais, en dépit du fait que nous ayons beaucoup de Français dans nos bouches, nous devrons nous regarder en face, pas avec nous les êtres, mais avec la nation. Nous devons regarder ces pays. Nous sommes dans une situation de non-État. Le pays n'existe pas. Le devenir de la nation est détenu par un groupe de mafrans qui veulent s'éterniser au pouvoir le plus longtemps que possible et nous faire souffrir. Mmh. Quand vous voyez le Congo, cet éléphant qui est malade, qui dorme, alors que les salis de beaucoup de pays africains ou du monde dépendent de ce Congo qui est malade. Nous pensons qu'il faut des piqûres de la quinine triplé pour que le pays se réveille. Parmi les quinines ou les piquires qu'il faut, je pense que le discours récent du chef de l'État est une des piquires qui pouvait peut-être faire réveiller l'éléphant qui demeure et que le pays soit vraiment placé et reprendre sa place vraiment dans les concerts des nations. Puisque les problèmes du Congo, ce sont les problèmes d'hommes. Ce sont des hommes. Nous avons une catégorie de gens qui veulent confisquer le pouvoir et les avoir.
Mais oui, parce que vous reconnaissez que c'est un problème d'hommes. Est-ce qu'avec la majorité qu'on n'a pas trouvée, des gens qui n'ont pas accompagné le chef de l'État dans son programme, est-ce que vous pensez que ce serait possible qu'on les retrouve maintenant dans l'Union sacrée pour la nation?
C'est pourquoi j'ai parlé que nous sommes dans une situation de non-État. Nous devrons éviter tous ces débats de juridisme, c'est ça qui tue le pays. Les débats de juridisme, alors que la nation est par terre, il faudra prendre des mesures courageuses, des initiatives courageuses. Monsieur Gier, nous sommes en France lors de la 4e République. L'ancien régime avait bloqué, avait détenu tous les faveurs, les avoirs de la nation et son sort. Charles de Gaulle est arrivé. Il trouve qu'il ne pouvait pas travailler avec le système mis en place par l'ancien régime. Alors, comme il ne pouvait pas, il a pris des mesures courageuses et des décisions, des initiatives courageuses pour conduire le pays vers la 5e République.
Donc, si, je comprends bien, Simon, vous saluez ce discours qui me fait à la coalition.
Il faut que la coalition, comme la piqûre a été donnée, il faut que la coalition, les microbes là de la coalition, des gens qui veulent détenir le pouvoir, puissent être attaqués par cette
politique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Simon. Alors, on va terminer avec vous, Jean-Baptiste, avant de revenir à notre invité. Jean-Baptiste, vous êtes à Kisangani. Bonjour, Jean-Baptiste.
Bonjour, monsieur Jure. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour à tous mes prédécesseurs et bonjour à toute la population congolaise.
Alors, quelle lecture faites-vous après cette allocution du chef de l'État?
En tout cas, merci beaucoup, monsieur Juire, de m'avoir sélectionné dans cette interaction. Et nous avons quand même salué hier le discours du chef de l'État, monsieur Félix Tshisekedi. Pas d'autant plus que ce discours a répondu aux attentes, bien sûr, de la population, parce que il faut quand même mentionner que la température au niveau de Kisangani a été relativement bien positive envers, bien évidemment, ces discours du chef de l'État. Et il a nommé un informateur, bien évidemment. Je vais un peu revenir ce que vient de dire mon prédécesseur, un de mes prédécesseurs. On disait que, bien évidemment, on n'avait pas nommé un informateur d'autant avant. Cela montrait, bien évidemment, qu'il n'y a pas une majorité. Il n'y a pas une majorité, mais c'est une majorité documentée. Je voudrais dire que, tout simplement, il faut qu'on comprenne parfois que nous sommes dans la politique. Nous, nous la sommes plus dans la sociologie. On oublie parfois que c'est la politique. Est-ce que vous êtes pas ignoré que tous ces gens, le président comme il est là avec toute son équipe, ne pouvaient pas penser que c'est qu'attuant la majorité, bien évidemment, quand tu as une coalition et quand tu as une majorité d'une coalition, on peut pas nommer un informateur. Non, c'est-à-dire qu'ils savaient tout ça. Ils n'ont pas voulu nommer cet informateur parce que le temps n'était pas encore propice. C'est la politique, il faut le comprendre. On sait là où on va soulever le
temps. Donc ils ont été rattrapés par le temps. Comme l'a dit Amos, le chef de l'État est tombé dans le piège de ses partenaires. Est-ce que vous confirmez ça là?
Non, moi je ne confirme pas. Moi je trouve plutôt que c'est une façon de diriger sa politique. C'est une façon. Écoutez, il faut un peu savoir que la politique c'est pas comme la sociologie,
c'est pas comme l'histoire.
Comme un fait stable, on va dire. Écoutez, il faut décider rapidement. Non, il faut savoir le temps propice où on doit soulever la tête ou on ne doit pas soulever la tête. C'est ça.
Merci beaucoup, Jean-Baptiste. On va poursuivre parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui, en tout cas, les standards va exploser parce que bon, beaucoup de gens, tout le monde veut intervenir. On ne saura pas prendre tous, et merci à vous tous qui avez eu le temps de commenter ces sujets sur notre page Facebook. Vous êtes en tout cas, comme je l'ai dit, plus de 5000 à avoir lu et commenté ces sujets, et voire même partagé avec d'autres personnes. Merci de l'intérêt. Alors professeur, vous avez suivi les uns les autres, qu'est-ce que vous répondez? En tout cas, comment analysez-vous les interventions des uns des autres?
Oui, mais j'ai
suivi. Finalement, le discours a été bien accueilli,
bien sûr.
Et il y a eu des commentaires par-ci par-là, mais les gens, en tout cas dans l'ensemble, regrettent le fait que l'informateur n'ait pas été désigné au moment voulu, c'est-à-dire après les élections, avant la formation du gouvernement.
Oui, merci.
Et que maintenant, ça complique les choses.
Ok, il y a vraiment... les intervenants ont fait des observations très pertinentes, très intelligentes. Il y a Christian, mon ami Franck, etc. Ils sont très bien parlé.
Simon Tiloulou et l'honorable Mouindo.
Mouindo et Jean-Baptiste. Je suis en général d'accord avec eux. C'est pour montrer qu'il y a un consensus qui se dégage. Le président est entré dans l'histoire. Le peuple l'attendait. Le président a répondu au rendez-vous du peuple. Le discours sur le fond, sur la forme, c'était impeccable. Sans faute. Très bien. Deuxième chose. On revient sur la question de l'informateur ou le passé. On ne va pas refaire le passé. Comme Jean-Baptiste l'a dit, la politique, c'est autre chose. La politique est dynamique. Les politiciens peuvent se réunir pour trouver... Écoutez, on ne va pas perdre du temps avec aller chercher un informateur, mais nous sommes déjà d'accord. Nous avons déjà la majorité, on constate, parce que la majorité se constate à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas dans la rue, c'est à l'Assemblée nationale qu'on constate
qu'il y a une majorité. Et à ce moment-là, on n'évoque pas que la Constitution a été violée.
Non, c'est pas
nécessaire. Parce que c'est un arrangement politique. C'est comme si la politique tient toujours le droit en état.
Oui, oui, mais...
Dans ce pays, c'est impossible que le droit puisse être dit, être accepté facilement.
Mais c'est la politique qui crée le droit. Vous comprenez ça? Donc c'est la politique qui crée le droit. Et qui change même le droit, qui le modifie, qui crée. C'est la politique. Voyez-vous? Et il n'y a nulle part au monde, dans aucun pays au monde... La politique et la Constitution concordent. Il y a toujours un fossé. Il y a toujours un fossé entre la Constitution et la politique. Pourquoi? Parce que la Constitution est statique. Le droit est statique. Il est conservateur. Tandis que la politique bouge tous les jours. Les faits changent tous les jours, etc. Et donc, là, il ne faut pas confondre le droit et la politique. C'est toujours différent. Donc, en 2019, en janvier 2019, ils ont constaté que ce n'était pas nécessaire de passer par le biais de l'informateur pour venir dire au président de la République
voilà la majorité.
Voilà la majorité là. Mais la majorité est déjà là. Parce qu'ils étaient
mais c'est
déjà...
une erreur politique.
Oui. Et donc, pourquoi parce une erreur?
C'est pas une erreur?
Mais c'est pas
parce
une...
que ça rattrape aujourd'hui.
Non,
ça,
non,
ça,
non.
Ça le rattrape.
Non, non, attendez. C'est pas une erreur politique. Les acteurs politiques, à l'époque, ont constaté qu'il y a une majorité. Parlementaire. Le FCC avait une majorité jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à preuve du contraire. La majorité parlementaire. On a proclamé les résultats. On a vu le nombre de députés, le nombre de sièges obtenus par le FCC et par le CASH. en faisant une simple addition, opération arithmétique.
Si vous le permettez, on va plus revenir et puis on revient avec vous pour qu'on reste et conclue cette émission. Oui. Maître Paty Lendo, vous êtes avec vous à Kinshasa. Maître Paty.
Oui, bonjour Radio Capi et bonjour aux multiples auditeurs.
Alors, on va quand même faire parler de droit, parce que le temps nous est imparti en une ou deux minutes. Et qu'est-ce qu'on peut retenir du discours? Est-ce qu'il y a eu des erreurs politiques ou des erreurs en droit commises par le chef de l'État? Le fait d'avoir, disons, désigné les formateurs aujourd'hui en pleine législature?
Non, il ne faudrait pas dire qu'il y a des erreurs politiques ou des erreurs juridiques, mais néanmoins, il faudrait que nous nous mettions d'accord, comme nous l'avons toujours dit dans ces pays, à donner du contenu au concept que nous utilisons. La politique, c'est quoi? J'ai entendu beaucoup d'intervenants cogiter autour de la politique et le droit. Il ne faudrait pas perdre de vue que le droit, c'est une sécrétion normative de la vie en société. Et la politique s'incruste dans la normalité sociétale. Donc, il ne faudrait pas dire que la politique, c'est autre chose, les droits en est une autre. Ah non, il faut dire que la politique respecte en fait l'établi, c'est ça la démocratie. Cela dit, est-ce le président a-t-il commis ou aurait commis une erreur? Ah non, il n'y a pas d'erreur. Mais néanmoins, s'il faut faire le constitutionnalisme classique, il faut reconnaître que, le professeur l'a dit, je crois l'avoir suivi, il faut reconnaître que la majorité parlementaire se constate dans l'Assemblée même, ce qui n'a pas été fait au début. Ça, il faut le reconnaître, qu'il n'y a pas de péché non plus, mais contre qui que ce soit. Nous avons vu nos amis des FCC d'hier aller constater leur majorité dans une savane loin de Kinshasa. Mais ça, c'est pas comme ça, c'est pas ce que le droit a dit, ni dans son esprit, ni dans son âme, encore moins dans sa lettre, voyez-vous. Mais aujourd'hui, nous rentrons comme qui dirait. Il n'y a que des morts qui ne changent point d'avis. Nous rentrons dans la normalité constitutionnelle avec tous les remous sociopolitiques que nous avons notés. Le président a constaté, autant que nous qui avons été consultés, que cette majorité-là risque d'être putative, c'est-à-dire une majorité de l'esprit. Nous vivons avec nos amis des uns et des autres, nous apprenons ce que nous pouvons apprendre d'eux, et nous avons dit que il y a plus que temps que nous revenions à la constitutionnalité classique, c'est-à-dire quoi? Monsieur le Président, il faut désigner un informateur qui puisse créer la majorité dans l'hémicycle même. On demande à monsieur Chier Lugendo, vous êtes parti tel, vous êtes député tel, êtes-vous pour? Ça, vous dites oui, on note. Et après, cette gymnastique de l'informateur, on se serait mis d'accord, et les droits et la politique, qu'il y a effectivement une majorité qui s'est destinée au sein de l'hémicycle. Donc voilà, à ce stade, il n'y a pas
d'erreur politique, ni d'erreur juridique.
Je dirais, sincèrement, je regrette, et ça, ce n'était pas le juridisme, mais la sociologie politique, je regrette que nos amis FCC se cramponnent dans ce chapeau de l'axe du mal. Ils auraient pu, comme avait si bien dit Maître Mouni, alors de proche du maréchal Mobutu et de ses forces de conclave à l'époque, Mouni avait dit, le mal on ne le caresse pas, le mal on le conjure. Si nous venions d'un système qui nous a fait manger de ses limites pendant 18 ans, avec l'alternance, nous avons cru que nos amis se seraient repentis et de comprendre que l'heure.
Voilà, Maître Paty, merci. Merci beaucoup. On va conclure cette émission avec professeur Tshibangu Kalala. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Que va-t-il se passer concrètement dans les jours à venir?
Oui. Bon, d'abord, une simple observation par rapport à Maître Paty. Il faut comprendre que ce sont les faits qui précèdent le droit. Ce sont les faits. On ne peut pas avoir le droit s'il n'y a pas des faits. Et donc, les faits, c'est la politique, c'est le mouvement, c'est la société qui bouge. Il y a des aspirations, il y a des besoins, il y a des demandes, etc. Et ces demandes peuvent arriver à ce qu'on puisse élaborer une nouvelle loi ou modifier ce qui existe. Parce qu'il y a toujours un fossé entre la loi et les faits, avec la société. Donc, pour revenir à la question de l'informateur, je crois qu'on a dit tout à ce sujet. Ce qui s'est passé en 2018-2019, on ne va pas refaire le passé. C'est passé. Aujourd'hui, le président a mis en place deux plans. Le plan A et le plan B. prend le travail de l'information. Il va confier une mission d'information à une personnalité qui va essayer de voir est-ce qu'il y a une majorité, s'il n'y a pas une majorité. Bon, s'il y en a, il y en a. S'il n'y en a pas, bon, il faut voir une coalition.
Si cette majorité est gardée par les FCC, le chef de l'État va dissoudre l'Assemblée nationale.
Si il n'y a pas de changement, le président va dissoudre l'Assemblée nationale
et organiser les élections.
Des élections législatives anticipées. Il y a un nouveau soleil qui se lève.
Mais pas avec la CENI en place, mais plutôt, vous avez proposé un comité.
Oui, non, avec la CENI. La CENI. C'est la CENI qui doit...
Pas avec les mêmes acteurs.
Pas avec le bureau.
Avec le même manuel.
Parce que le bureau est dans la crise. Mmh. Mais la CENI, c'est l'administration, c'est l'institution. Elle doit faire son travail, mais diriger autrement. Avec un comité spécial de la société civile, et bien encadré par les experts internationaux, nationaux, etc., pour nous faire les élections dans un délai raisonnable, 4 à 6 mois. Ça peut se faire. Bon, ça, c'est mon idée. Mais pas avec le bureau de la CENI actuel qui est dans la crise. Voyez-vous. Donc, la question de l'information, le débat peut continuer, mais pour moi, le président a voulu voir la température générale à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y a une nouvelle majorité, oui ou non? S'il y en a, il va acter, eh bien, il va dissoudre l'Assemblée nationale, organisation. Le président est entré dans l'histoire. Et comme quelqu'un l'a dit, je le répète, il y a une aube nouvelle qui se lève sur la RDC. Un soleil nouveau qui se lève sur la RDC. Et l'action du président de la République mérite d'être soutenue par tout le peuple congolais. Et je suis personnellement heureux d'apprendre qu'il y a une effervescence de joie
à
travers le pays.
Voilà.
Et donc le président est dans la bonne voie. Il faut qu'il poursuive. Il a besoin
professeur de Tshibangu Kalala, merci beaucoup. Vous êtes à la liste politique et acteur politique en même temps. Nous les rappelons que vous avez eu à jeter les tabliers. Vous ne faites plus partie du FCC. Hein. Désormais, vous avez votre liberté d'esprit de parler. Et vous l'avez dit dans nos émissions passées.
Non, mais il ne faut pas toujours me parler du FCC, Jean Lungembo.
Merci beaucoup. FCC, on y reviendra.
Le FCC, c'était une coalition électorale qui n'existe plus.
Plus jamais. Donc vous n'êtes plus dans cette.
C'était une coalition électorale qui n'existe plus.
Voilà.
Et donc le FCC actuel, je n'ai rien à voir avec le FCC actuel.
Merci beaucoup, professeur Tshibangu Kalala. Merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission. Marcel Ngombo-Bala, Jean-Claude Nsiala et Jir Lungembo Luabung Anji a été à la présentation et à la coordination de cette émission. C'était un réel plaisir de passer ces moments ensemble avec vous. On se retrouve demain dans un autre numéro de Paroles aux auditeurs. À très bientôt.